VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. En RDC, découverte par les autorités de deux corps dans le Kasaï, région du centre du pays, où deux experts de l'ONU, un Américain et une Suédoise, sont portés disparus. Nicolas Pino a recueilli la réaction de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Oui, on a découvert deux corps d'Européens, disons caucasiens, comme vous dites, avec un corps de Congolais dans un trou près de la rivière Moyo où les deux experts avaient disparu. Et comme il n'y a pas d'autres étrangers disparus dans le pays, on craint que ce ne soit eux. Mais le commissaire provincial de la police est descendu ce matin sur place et il va procéder à l'identification que nous attendons d'un moment à l'autre. Nous attendons qu'il rentre à Kananga, ça fait 120 km dans de très mauvaises routes, donc il faut attendre fin de l'après-midi.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Et toujours concernant cette région du Kasaï, l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU et l'Organisation internationale de la francophonie expriment ce mardi leur profonde préoccupation concernant la grave situation existant au Kasaï. La police accuse des rebelles dans cette province d'avoir massacré 39 agents de l'État. Et les quatre organisations supranationales condamnent cet acte ignoble dans un communiqué commun. Et toujours en RDC, le dialogue politique dans le pays est dans l'impasse. Le pouvoir, l'opposition et la société civile se sont séparés lundi quand les négociations sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale catholique du Congo, se sont terminées en queue de poisson. La pomme de discorde, la désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. D'où la décision des évêques catholiques hier soir de mettre fin à leurs bons offices. Félix Tshisekedi, de la plateforme du Rassemblement d'opposition, pointe un doigt accusateur sur le gouvernement du président Joseph Kabila.
C'est du gâchis, c'est dommage pour le peuple, oui, qui attendait sûrement beaucoup plus de la part de la majorité présidentielle, parce que c'est elle qui est responsable de l'échec. Il y a un accord qui a été signé le 31 décembre, et si vous regardez cet accord, il n'y a aucun endroit où il parle de trois noms et tout le reste, donc vous comprenez bien que tout était fait pour tuer l'accord à travers les arrangements particuliers que nous avons faits. Donc il n'y a pas de tort partagé, il y a un coupable, c'est le camp du président Kabila, voilà.
Réaction du côté du pouvoir à Kinshasa, on écoute Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité.
Il faut toujours espérer, on n'a pas atteint l'objectif. L'essentiel c'est qu'il y a eu quelques points importants qui ont été adoptés. Les institutions de la République doivent s'assumer avec toute la population afin que nous atteignions notre objectif à tous. Et par rapport à cet objectif, il y a eu consensus, à savoir organiser les élections. L'accord a été signé le 31 décembre, mais l'arrangement particulier, nous ne l'avons pas signé, hélas.
Aubin Minaku de la majorité en RDC. Ces réactions des leaders politiques congolais ont été recueillies par nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a personnellement lancé ce mardi le dialogue politique inclusif et sans tabou qu'il a organisé pour tenter de mettre fin à la crise politique née de la contestation de sa réélection en août. Mais cette réunion, associant partis politiques et mouvements de la société civile, est boycottée par le camp de son rival Jean Ping, qui se proclame toujours le président élu. Au micro de Blanche Sanou, le professeur Flavien Enonkwe, conseiller du président Ali Bongo, situe les enjeux du conclave en cours à Libreville.
Il y a deux principaux objectifs. Il y a un objectif immédiat qui est de consolider l'apaisement et la décrispation donc du climat politique. Et il y a un objectif plus structurel qui est celui à moyen et à long terme de parvenir à une révision fondamentale, à une réforme des institutions.
L'absence de l'opposition va-t-elle avoir un impact sur le dialogue?
Je ne pense pas. On eût aimé que tout le monde fût là, mais comme vous savez, les agendas politiques des uns et des autres autres ne sont pas forcément de nature à permettre cela. Mais le caractère inclusif du dialogue, il est assuré dès lors qu'il y a une participation massive de la société civile à la phase citoyenne. Aujourd'hui, on annonce 1200 organisations de la société civile et à la phase politique, il y a la majorité des partis politiques qui constituent le paysage politique gabonais. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques personnalités qui sont restées à marge de cela.
Le professeur Flavien Enonkwe, conseiller du président Ali Bongo Ondimba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, deuxième jour de la conférence d'entente nationale en cours à Bamako, la CMA, l'ex-rébellion à dominante Touareg, a rejoint ce mardi la réunion après avoir boycotté les travaux hier. Par contre, l'opposition malienne maintient son refus d'y participer. Objectif de la conférence censée durer 7 jours, promouvoir la paix et la réconciliation nationale et proposer des solutions aux problèmes du pays. Le président Ibrahim Boubacar Keïta se dit convaincu que les récalcitrants prendront le train en marche. On écoute le chef de l'État malien.
Je rappelle que cette conférence d'entente nationale est un train qui démarre. Et ceux qui ne l'auront pas pris dans cette gare-ci peuvent toujours le rattraper à une autre gare. L'essentiel est qu'à l'arrivée, toute la famille soit réunie. Et la dernière gare, le terminus de ce voyage, porte le nom Entente nationale. Une fois que j'aurai reçu les recommandations de la conférence, ainsi qu'il m'a été demandé par le président de la conférence d'entente nationale, je déciderai du cadre, des modalités et de l'agenda de son élaboration définitive, ainsi que de son appropriation par l'ensemble des composants de la nation. Nous ne sommes dans aucune malice. Nous voulons un Mali uni. Nous voulons un Mali sur des bases solides. Rien ne nous effraie. Aucun débat ne nous effraie.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Actualité hors d'Afrique maintenant. En Europe, la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est proche. Demain mercredi, Londres va activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui lancera officiellement le processus de sortie 9 mois après le référendum du 23 juin 2016 où les Britanniques ont voté à près de 52% pour quitter l'Union européenne. Claire Morin-Gibault.
C'est mercredi que Tim Barrow, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Bruxelles, va remettre au Conseil européen la lettre officielle qui marquera le début de 2 ans de négociations. Au même moment, Theresa May annoncera aux députés le lancement de la procédure. Le lendemain, le gouvernement britannique publiera le Great Repeal Bill, c'est-à-dire le livre blanc du projet de loi, baptisé Grande Abrogation. Il est destiné à abolir une loi de 1972 qui avait incorporé la législation européenne au droit britannique. Sur le plan économique, cela risque d'être plus compliqué. Les négociations pourraient ne pas aboutir et laisser le pays sans accord. La Grande-Bretagne sera alors exposée aux règles de base de l'Organisation mondiale du commerce, comprenant notamment des barrières douanières. La Fédération de l'industrie britannique a jugé ce scénario inacceptable alors que l'Union européenne représente la moitié des échanges britanniques. Les situations en Écosse et en Irlande du Nord sont encore plus problématiques. Le Parlement écossais devrait voter aujourd'hui une motion l'autorisant à réclamer un nouveau référendum pour l'indépendance. En Irlande du Nord, les républicains du Sinn Féin et les unionistes ont échoué à trouver un accord sur une coalition gouvernementale, ce qui pourrait aboutir à un retour au « direct rule », c'est-à-dire l'administration directe de la province par Londres.
Ici aux États-Unis, l'administration Trump menace de priver de fronts fédéraux les villes ou juridictions dites sanctuaires si elles persistent dans leur refus d'appliquer les lois sur l'immigration en continuant d'abriter illégalement des immigrés clandestins. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche hier, Jeff Sessions, ministre américain de la Justice, a exhorté les États et les juridictions locales à se conformer aux lois fédérales et d'affirmer que le principal critère concernant les subventions qui leur sont octroyées par le biais du département de la Justice serait avant tout le respect des lois sur l'immigration. Il a également menacé de reprendre les fonds déjà déboursés. L'administration Obama avait déjà mené une politique similaire. Pour Sessions, en ne coopérant pas avec les services de l'immigration, ces villes laissent des clandestins potentiellement dangereux en liberté. Son département prévoit d'accorder plus de 4,1 milliards de dollars au cours du présent exercice financier. Donald Trump avait fait des villes sanctuaires l'un de ses thèmes de campagne, en affirmant qu'il allait leur retirer tout financement fédéral. Mais des villes comme New York, Chicago et Los Angeles évoquent un précédent juridique en leur faveur. Le maire de New York de souligner que ces coupes pourraient avoir l'effet inverse de celui recherché, car selon lui, les services de police seraient les premières victimes.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.